La première, restons curieux. La première, face à l'info.
Et donc, retour à l'occasion de Face à l'info sur cette pollution dans le golfe du Mexique. Je vous le disais, il y a tout juste 3 mois, le 22 avril, la plateforme de BP sombrait dans ce golfe du Mexique. Alors aujourd'hui, le Centre national des ouragans américains a émis un avis de tempête tropicale, ce qui pourrait éventuellement interrompre les opérations de lutte contre la mer Noire, des opérations dont vous allez nous parler avec vos invités, Dick Ackelberg.
Impact écologique, guerre ou tension diplomatique, guerre de communication, images désastreuses et impact social et bien sûr financier. Voilà quelques-uns des points que nous aurons à aborder, Olivier, avec nos invités. Et tout cela concerne bien évidemment et en premier lieu BP, ce géant dont on apprend que le directeur général serait en passe de démissionner, très critiqué qu'il a été pour sa gestion ou non-gestion de la marée noire. Mais nous verrons aussi combien et pourquoi les États-Unis n'ont pas, en termes politiques, de gestion possible en tant que telle de cette crise et pourquoi ils doivent s'en remettre donc à des groupes privés comme BP pour la gérer. Nous allons le faire en direct avec Patrick Lagadec, spécialiste, vous le savez, de cette gestion de crise. Avec Nicolas Williams, notre spécialiste à la rédaction qui a été sur le terrain en Louisiane et qui connaît et suit ce dossier, mais aussi en direct avec notre correspondante aux États-Unis, Marie-Christine Bonzon. Merci à tous d'être face à l'info. Alors Nicolas Williams, bonsoir.
Bonsoir.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation ne s'améliore guère. Lorsque vous étiez sur place déjà, et nous en entendrons encore ici des échos du terrain, vous nous rameniez l'écho d'un désastre. Comme Olivier Nederland vient de le dire, l'annonce faite aujourd'hui, et la saison est telle que c'était prévisible, de l'annonce d'un ouragan possible, on va avoir une catastrophe sur la catastrophe.
Voilà, alors là c'est véritablement le pire des scénarios imaginable. On s'approche de la saison des ouragans dans le golfe du Mexique. On annonce là, en tout cas, une tempête tropicale qui pourrait se transformer en ouragan. Et d'après les chaînes américaines et les médias américains, on pourrait suspendre les opérations pendant 10 à 14 jours à cause des intempéries. Ça veut dire aussi tout arrêter, mais ça veut aussi dire que nous sommes à un moment crucial. BP annonce en tout cas de gros efforts. On aurait arrêté la fuite de pétrole. Il y aurait d'autres fuites aussi à proximité qui ne sont pas forcément dues à celle-ci, mais il faut étudier la situation. Donc, il faut encore beaucoup, beaucoup travailler là-dessus. Parallèlement, il y a aussi cette idée de faire cimenter le puits de pétrole. Et là, tout est à l'arrêt. Ça veut dire aussi que si un ouragan arrive, la pollution pourrait prendre des proportions véritablement inquiétantes.
Patrick Lagadec, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Alors, Patrick Lagadec, l'amiral à la retraite des gardes-côtes américain Tad Allen, qui est actuellement en charge de cette gestion de crise BP, mais qui avait aussi été dans les derniers instants en gestion de crise de Katrina, va avoir fort à faire pour tirer les enseignements à la fois de l'une et l'autre de ces crises. Notons bien quand même au passage que Tad Allen est aussi un lecteur assidu de vos propres livres, donc il est bien conseillé, Patrick Lagadec.
Non, moi j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter et de regarder ce qu'il avait été capable de faire en arrivant sur Katrina. Et son diagnostic était clair, il disait, quand je suis arrivé et que j'ai compris une chose, c'est que personne n'avait rien compris. C'est-à-dire que c'était pas un ouragan, c'était une inondation catastrophique. Et je rattacherai ça un peu à une phrase clé de la conclusion du rapport des représentants sur Katrina, et ça sonne ici en écho un petit peu, c'est pourquoi sommes-nous donc toujours en retard d'une guerre, d'une crise ? Et je crois que cette crise-ci va vraiment devoir nous faire poser des questions fondamentales sur est-ce que nos paradigmes de prise en charge des risques tiennent encore ? Est-ce que nos paradigmes de gestion de crise tiennent encore ? Est-ce que nos paradigmes de management, de gestion tiennent encore ? Enfin, un ensemble de questions absolument fondamentales. Puisqu'on s'aperçoit qu'on est vraiment très 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 limite sur chacun de ces points et que quelque part c'est échec et mat assez systématique, et donc il va falloir vraiment y réfléchir.
Alors je vous propose immédiatement un détour déjà par le terrain avec une discussion autour d'une association, d'une ONG, on peut pratiquement dire Nicolas Williams particulière, la Louisiana Bucket Brigade. Un mot pour nous expliquer de ce dont il retourne à leur propos ?
Alors on le sait, il y a aussi une véritable guerre de communication dans cette marée noire. D'une part entre BP, les autorités américaines et les groupes citoyens. BP a dépensé beaucoup d'argent pour tenter de ramener son image, en tout cas de nettoyer son image, on peut le dire comme ça. Notamment en achetant des mots-clés sur Google. Quand on tape « oil spill » sur Google, on arrive directement sur le site de BP pour montrer que ce sont des gens bien, par exemple. Il y a aussi naturellement le dernier scandale en date de photos truquées sur le site de BP pour montrer finalement que les images sont plus belles que la réalité. Et face à ça, il y a une réponse citoyenne très importante qui s'organise aux États-Unis et notamment la Louisiana Bucket Brigade, qui est en fait un groupe basé à la Nouvelle-Orléans, qui a mis en place une carte qui est disponible sur Internet, qui met en fait en avant tous les différents impacts de cette marée noire, et les internautes peuvent téléphoner ou envoyer par courriel donc les différents impacts de cette marée noire.
Alors on vous retrouve sur le terrain avec une des représentantes de cette Louisiana Bucket Brigade.
Shannon nous reçoit dans les locaux de Bucket Brigade. Cette association basée à la Nouvelle-Orléans a mis en place un site internet pour partager les informations concernant la marée noire dans le golfe du Mexique. Ce que nous avons fait, c'est de développer un système de cartes pour la gestion de crise, un peu sur l'idée de ce qui s'est fait pour venir en aide à Haïti après le séisme. Dans notre cas, nous avons voulu développer un outil pour aider les gens affectés par les conséquences de la marée noire dans notre région. Le site propose une carte détaillée des côtes de Louisiane. On y voit notamment l'évolution de la nappe de pétrole, les ports de pêche fermés ou les élevages d'huîtres affectés par la pollution. Anna Rofles est la fondatrice du projet.
Nous avons fait une carte sur l'Internet pour qu'on puisse voir les problèmes qu'on va avoir avec cette marée noire. Parce qu'ils vont avoir beaucoup de gens en chômage, surtout les pêcheurs. Aussi, c'est pour les problèmes environnementaux.
Donc c'est une véritable initiative citoyenne, en fait.
Oh, bien sûr, oui. Notre utilisation, c'est la première utilisation dans les États-Unis pour un désastre en Amérique.
Voilà, un premier reportage signé sur le terrain par vous-même, Nicolas Willems et Philippe Van Der Beek, qui étaient à vos côtés. Alors, à nouveau, ici, une première réaction, Patrick Lagadec. On voit bien qu'il y a une riposte citoyenne et... Bien sûr, nul n'est à l'abri d'une tendance politique ou d'une manipulation politique dans ce genre de dossier, mais on se demande évidemment pourquoi l'autorité américaine ne dispose pas de tels outils de gestion et de contrôle. Probablement aussi, Nicolas Willems nous le confirmera dans un instant, parce que le système américain prévoit une forme de délégation de la puissance publique à la puissance privée.
Si je réagis, Patrick Lagadec... Quand on voit l'écart entre ce qui a été dit sur les mises en cause de BP sur Internet et ce qu'on vient d'entendre de prise en charge par la population, ben l'écart est assez pathétique. Lorsqu'on a entendu le directeur général de BP affirmer au départ que les conséquences vraiment, vraiment lilliputiennes, on reste estomaqué. Donc la capacité aurait dû être de travailler avec tous ces gens localement, mais instantanément, immédiatement, surtout après la croisade que le général Honoré avait faite après Katrina sur le thème dans l'ensemble des États-Unis, prenez-vous en charge, faites quelque chose, ne comptez pas uniquement sur les personnes qui ont des moyens et le pouvoir. Il y avait vraiment une carte à jouer par BP avec tous ces gens, sans être dans le biais, le retard d'information, la difficulté, la négation, et avec la seule carte technologique dont on voit vraiment les limites. Donc là, il y a une première leçon qui est évidente, c'est comment aujourd'hui on travaille avec d'autres en situation, certes illisible, c'est les problèmes d'aujourd'hui, c'est très, très compliqué, mais il ne s'agit pas de le cacher, il s'agit de travailler avec les uns et les autres, et c'était un premier axe stratégique absolument fondamental qu'il aurait fallu être capable de mettre sur pied tout de suite, et véritablement on n'y était pas préparé. Donc, et peut-être qu'on n'avait pas tellement envie non plus de se préparer, mais là il y a vraiment une incompétence sur laquelle il va falloir complètement redistribuer les cartes. On ne peut plus travailler avec ces logiques en tête.
Il faut des forces de réflexion rapide, comme vous dites.
Et oui, je crois que le premier point qu'on a vu dans cette affaire, tout à fait au début, vous l'avez rappelé, ça a été le problème de qualification de l'événement. et on est parti sur oil spill, un problème de marée noire comme on a fait d'habitude avec un bateau qui a un problème. Ici, on est sur tout à fait autre chose. Les Américains ont produit le terme oil gush, quand on brise l'artère, quand on coupe avec une énorme quantité qui sort, ce n'est plus la situation que l'on avait avec oil spill. Et ça, il fallait le voir dès le départ et se mettre à ce niveau d'amplitude de l'événement pour tout de suite dire ce n'est pas l'Exxon Valdez, c'est tout de suite la première catastrophe américaine en point de vue écologique à laquelle nous assistons, et cela supposait évidemment tout de suite d'autres moyens, d'autres stratégies, d'autres positionnements de BP, et probablement également dans le premier mois, après ça a été remarquablement corrigé, mais premièrement, tout à fait au début, une autre posture de la Maison Blanche sur ce genre d'affaires, même si Ted Allen a heureusement été nommé en charge de l'opération, parce que là on a véritablement affaire à un très grand professionnel.
Alors vous restez avec nous pendant toute la durée de l'émission, comme tous nos autres invités. Patrick Lagadec, je vous en remercie. Marie-Christine Bonzon, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, il est vrai que ce dossier de la marée noire est un dossier boulé pour Barack Obama. Erreur de stratégie au départ. Aujourd'hui, après de très grosses colères, obligé de malgré tout composer avec le groupe BP, parce que, on le rappelait, BP, c'est quasiment le seul recours pour l'instant, technologiquement parlant, de l'administration Obama. L'administration américaine n'a pas ses propres armes pour aller boucher le trou.
Il n'y a pas de situation gagnante, Eddie, pour Barack Obama, ou d'ailleurs pour la population du littoral du Golfe du Mexique. Il n'y a pas de situation gagnante. Barack Obama, au départ, a rejeté la faute et la responsabilité du désastre sur BP. Ça ne lui a pas réussi. Par la suite, il est intervenu en disant qu'il était le responsable. Évidemment, c'est très ambivalent, et donc de ce côté-là, si vous voulez, il est condamné à faire un exercice de funambulisme, si vous voulez. Il n'y a pas de situation gagnante pour lui, et il perd dans les sondages énormément, dans les sondages d'opinion. C'est même l'autorité du président qui s'érode le plus dangereusement, la confiance des Américains dans sa capacité à prendre des décisions. C'est quasiment l'image, si vous voulez, d'efficacité, de dynamisme qu'avait porté Barack Obama à la Maison Blanche après son élection, et quand il est entré à la Maison Blanche, qui s'érode, et sa capacité à gérer une crise, par exemple, dans l'esprit des Américains, a dégringolé de 13 à 14 points ces derniers temps. Donc on est vraiment dans une situation où il n'y a pas de solution politique pour Barack Obama, et apparemment pas de solution sur le terrain dans le littoral du Golfe. Et à cet égard, je voulais mentionner une conversation que j'ai eue il y a à peine quelques jours avec Aaron Wiles, qui est le directeur de campagne du Gulf Restoration Network. Il s'agit d'une coalition d'organisations non gouvernementales située tout le long du littoral du Golfe du Mexique. Il s'agit donc d'une organisation de groupement écologiste. Et Aaron Wiles m'a dit, je veux voir du leadership de la part d'Obama. Il n'a pas encore nommé des responsables efficaces. Fad Allen est une chose, mais le gouvernement américain a la mauvaise habitude, tout au long de son histoire, à chaque fois qu'il y a une crise, un problème, de tout focaliser. On l'avait vu sur, par exemple, la guerre en Irak, de diaboliser Saddam Hussein. Là, maintenant, le gouvernement américain fonctionne de la même manière, c'est-à-dire, on personnalise le problème. Et maintenant, donc, tout se focalise sur Saad Allen. Saad Allen n'est pas la panacée pour gérer un désastre de cet ordre. Et Saad Allen, effectivement, on l'a rappelé un peu plus tôt dans l'émission, avait également géré l'après-coup de Katrina. Certes, il avait dit que Katrina était une inondation et non pas un cyclone. Mais je veux dire, toute personne qui avait vu dans les premières heures de Katrina le problème à la télévision, et qui plus est dans les rues de la Nouvelle-Orléans, le savait. Katrina en 2005 n'a duré que quelques heures. L'inondation a duré énormément de jours. Donc je veux dire, il y a un détachement par rapport aux réalités des responsables du gouvernement américain qui, une nouvelle fois, 5 ans après Katrina, est ici manifeste, c'est-à-dire une incompétence, une incapacité à se projeter dans les réalités.
Il y a également, Marie-Christine, cette ombre de BP. Bien sûr, celle aussi de ce qu'on appelle le dossier Lockerbie, c'est une autre affaire, mais cette ombre de BP a pesé diplomatiquement aussi, par exemple, sur la visite du nouveau Premier ministre britannique, David Cameron.
Oui, tout à fait. Mardi, d'ailleurs, c'était une visite absolument extraordinaire. Il ne faut pas oublier quand même que David Cameron représente la Grande-Bretagne, le meilleur allié, l'allié le plus proche que les États-Unis n'ont jamais eu, d'après les propos employés mardi lors de la conférence de presse par Barack Obama lui-même. Or, il s'agissait de sa première visite à la Maison-Blanche. Or, toute la visite a été dominée par l'histoire de BP, sous tous ses angles. La responsabilité de BP dans la marée noire et la fuite sur la plateforme, et la responsabilité de BP apparemment dans le rôle qu'elle a joué pour favoriser la libération très anticipée de Abdelbasset El-Magraï, cet homme libyen qui était le seul à avoir été condamné pour l'attentat de Lockerbie qui a tué 270 personnes, dont 189 Américains. Donc ça a dominé la visite de David Cameron, et ça, bon, évidemment, David Cameron et Barack Obama ont tous les deux convenu en public qu'il fallait passer à autre chose, mais il y a toujours cette tension qui se porte d'ailleurs plus maintenant sur l'affaire Lockerbie que sur la responsabilité de BP dans le Golfe du Mexique.
Alors, je vous propose également à nouveau un détour par le terrain et puis de nouveaux commentaires aussi avec Nicolas Willems et Patrick Lagadec à propos de l'impact certes écologique mais aussi social et économique de cette terrible marée noire et de ce terrible désastre écologique. Nous allons refaire un détour, Nicolas, ici par le terrain, en retrouvant à la fois des pêcheurs bien sûr et puis quelques propositions de BP. Vous l'avez dit, BP est quelque part quand même maintenant pratiquement à la manœuvre parce qu'on lui a beaucoup délégué aussi depuis Washington une responsabilité dans la gestion de cette crise. On a dit le pollueur doit agir et sauver.
Oui, parce que d'une part aussi, le gros problème, c'est que c'est BP qui a l'expertise, qui a la technologie finalement pour contrecarrer ce type de marée noire, et les autorités américaines sont totalement dépourvues de ces moyens. Donc c'est pour ça en fait que d'une part, les autorités américaines pointent du doigt la responsabilité de BP, mais sont aussi obligées de composer avec BP. Et ce qui est aussi intéressant, et ça c'est en résonance par rapport à ce qui s'est dit précédemment dans l'émission, c'est disons l'image qu'on a dans les régions touchées, et là c'est la région du delta du Mississippi, une région qui a été touchée par Katrina, qui est touchée maintenant par cette marée noire. L'image qu'on a d'une part des autorités américaines en disant écoutez, Washington ne comprend rien, ils sont totalement déconnectés de notre réalité, et l'image qu'on a aussi de BP, c'est-à-dire que BP, on leur en veut, mais pas totalement, parce qu'il faut tout de même dire qu'une famille sur deux travaille pour BP ou pour des groupes pétroliers. Donc c'est tout le problème. Les principales sources finalement de financement de ces familles, c'est le tourisme, la pêche et naturellement tout ce qui est en relation avec le pétrole. Et donc il y a une véritable problème. Alors l'autre problème aussi par rapport à BP, ce qui est amusant, c'est que finalement le pollueur est aussi l'entreprise qui propose maintenant des petits emplois aux pêcheurs pour tenter de nettoyer également les côtes.
Oui, cette marée noire, BP pourrait entraîner jusqu'à 100 000 emplois supprimés dans cette région du Golfe du Mexique. C'est ce qu'estime en tout cas l'agence de notation Moody's. Notons bien qu'ils ne sont pas non plus tout à fait dégagés de responsabilité dans les désastres économiques. Donc, faut-il y voir de la fiabilité ? Quoi qu'il en soit, c'est certain, des dizaines de milliers d'emplois sont concernés, et notamment dans le domaine de la pêche. Nous allons l'entendre ici à nouveau avec ce reportage que vous avez réalisé avec Philippe Vanderbeek sur le terrain.
Dans ce bar fréquenté par les pêcheurs, O'Brien regarde anxieusement les images de la marée noire diffusées sur les chaînes de télévision. Il a l'air totalement effondré par l'importance de la catastrophe. Il ne veut pas croire ce qu'il voit. Il y a une véritable psychose ici dans la communauté des pêcheurs. C'est bien pire que Katrina. Ça va nous ruiner. Il n'y a pas que les pêcheurs, mais aussi les dockers et toute la chaîne de transformation. Je suis inquiet depuis le premier jour. En un mot, je suis foutu. Près de 5 ans après l'ouragan dévastateur Katrina, O'Brien espérait enfin relancer ses affaires. Il était prêt pour le début de la saison de la pêche, mais tout s'est écroulé avec la marée noire. Aujourd'hui, il ne sait pas comment il va rembourser ses dettes. J'ai perdu mon travail à cause de Katrina. Ma famille a dû déménager dans le Mississippi. Je travaille depuis tout ce temps pour me remettre en selle. Tant que mon business n'est pas en place, je ne peux pas faire revenir ma famille. Et à 2 semaines de mon objectif, tout a foiré. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est rire. Car il ne me reste plus de larmes pour pleurer. Nous sommes dans le collège de Venice. Le bâtiment a été réquisitionné par BP. La compagnie dispense des formations pour le nettoyage de la nappe de pétrole. Les pêcheurs qui ont perdu leur emploi à cause de la pollution sont invités à travailler pour le géant pétrolier. Michael Abundoff, porte-parole de BP. L'objectif de ces formations est d'apprendre aux volontaires les principales techniques et les mesures de sécurité élémentaires pour nettoyer le pétrole. Nous voulons que les gens soient bien préparés. Tout le monde peut assister à ces formations. Vous aussi, vous pouvez y venir. Si le pétrole touche les côtes, nous avons besoin de vous. Les pêcheurs sont venus en nombre avec leurs familles. Certains sont néanmoins réticents à travailler pour les responsables de leur malheur. Plusieurs amis à moi ont
déjà signé. Moi, je ne sais pas encore. Je dois vraiment y réfléchir. Un peu plus loin dans la ville, Jesse tient un restaurant. Choqué par l'impact de la marée noire, il a fait une proposition à BP. Nous voulons apporter les repas aux équipes qui vont nettoyer le pétrole. Ce que je veux aussi faire, si ça marche, c'est d'engager les pêcheurs qui n'ont plus rien à faire. Je voudrais leur donner du travail.
Écho du terrain, donc Patrick Lagadec, qui repose encore un peu plus la question que vous souleviez d'emblée, les changements de paradigme, parce que l'on se retrouve ici avec l'obligation d'analyser très très vite l'existence non seulement d'une marée noire, mais d'un désastre écologique total, d'un désastre économique et social réel par son impact, mais aussi finalement d'une faiblesse intrinsèque du système politique américain qui confie en quelque sorte aussi au secteur privé, voire aux principaux responsables de la catastrophe, l'obligation d'en sortir.
Et oui, et sur le fond, je crois qu'on a vraiment un problème, mais pas que les Américains. Nous aussi, on a un problème. C'est quel pilotage politique des problèmes majeurs de risque aujourd'hui? Si demain matin, nous perdons Internet sur l'Europe, je ne vois aucun gouvernement européen aller lui-même remettre les fils. Donc, quel pilotage de ce genre de choses? Ça veut dire, où sont nos capacités de réflexion immédiate, pas deux mois après, sur tous les enjeux et à quel niveau ça va se contaminer dans l'ensemble de les sociétés? Vous y faisiez allusion tout à l'heure, ce que je crois devoir faire en matière de force de réflexion rapide, une capacité pour immédiatement se mettre au niveau des enjeux qui sont posés par un problème. Nous n'avons pas ce genre de choses. Peut-être qu'avec Marc Schlersch en Belgique, nous arriverons à le développer avant tout le monde, mais il y a vraiment une capacité, non pas seulement à attendre que l'ensemble des tuyaux aient fourni leur expertise, mais à mettre immédiatement au service de ceux qui doivent réfléchir à une politique, une capacité de réflexion sur de quoi s'agit-il, quels sont les pièges, avec qui on va travailler, et surtout avec les populations. Et puis si on a une ou deux initiatives, c'est le moment, c'est pas dans deux jours. Ça suppose aussi un entraînement des gens à se poser des questions pour lesquelles nous n'avons pas les réponses, alors que tous nos entraînements sont faits sur la capacité à aligner le plus vite possible les réponses que l'on connaît. Ici, c'est tout à fait différent. C'est qu'est-ce que je fais quand je ne sais pas? Et troisième dimension absolument capitale, c'est être capable de travailler avec les populations. Et ce que disait votre correspondante aux États-Unis est absolument crucial. Je dois faire immédiatement avec les uns et les autres, sans par exemple ce que j'ai vu sur Internet tout à l'heure, je ne sais pas si c'est exact, mais voulant assécher l'expertise locale pour être sûr que grâce à un contrat, personne ne parlera plus. C'est exactement l'inverse. Il faut sortir par le haut de ce genre d'impasse et de grande crise, et certainement pas par le bas. Et donc là, certes, il y a des intérêts, certes, il y a des conflits, mais on ne peut pas jouer comme ça à la petite semaine. Nous avons vraiment des grands problèmes aujourd'hui, il faut être capable de les assumer tels quels. Et là, il faut inventer de nouveaux moyens de pilotage politique et économique de ces affaires.
D'autant plus, Marie-Christine Bonzon, que l'affaire des nouveaux forages pétroliers au large des côtes, offshore, comme on dit, fait grand bruit. Peu de temps avant, Barack Obama avait dit possiblement vouloir autoriser, voire les avoir autorisés. Il a fallu revenir. On en est à présent à un nouveau moratoire, mais à coup de recours aussi devant la Cour suprême des États-Unis. Bref, on est dans quelque chose de très difficile à cet égard-là. La communication politique instantanée n'est manifestement pas le fort des administrations.
Non, pas du tout. Et pour revenir sur ce qui vient d'être tenu par M. Lagadec, les États-Unis connaissent les crises. Ils en ont eu malheureusement au cours des dernières années très récentes, deux énormes. Les attentats du 11 septembre 2001 et le cyclone Katrina de 2005. Et malgré les grandes déclarations des hommes politiques américains faites après ces deux catastrophes, l'une naturelle, l'autre terroriste, sur la nécessité de créer aux États-Unis une structure nationale et un corps national de sécurité civile similaire à celui qui existe dans certains autres pays développés afin de faire face à ces catastrophes naturelles et autres, un tel corps aux États-Unis n'a toujours pas vu le jour. Donc on est là, quoi, 9 ans pratiquement après les attentats du 11 septembre 2001, 5 ans quasiment jour pour jour après Katrina, et cette structure n'a toujours pas vu le jour. Ce qui a amené par exemple le directeur de campagne du Gulf Restoration Network auquel je parlais il y a quelques jours à me dire qu'il souhaitait que le Pentagone intervienne et prenne les choses en main par rapport à BP et au reste du gouvernement américain. Alors pour que le dirigeant d'une coalition d'organisations écologistes
Post vous disent qu'il faut que le Pentagone intervienne. Il m'a dit, et je cite, « Obama a employé une terminologie guerrière, parlant de faire la guerre à la marée noire, mais il n'est pas allé assez loin et il n'a pas donné le contrôle des opérations sur le terrain à la seule entité qui s'est gagnée des guerres, le Pentagone. » Et je cite ici Aaron Weiss, le directeur de campagne du Gulf Restoration Network. Donc, c'est dire si les populations locales et la population américaine dans son ensemble est en plein désarroi. Faire appel au Pentagone pour lutter contre une fuite au niveau d'une plateforme pétrolière et maintenant une marée noire qui est la plus importante de l'histoire des États-Unis et de la planète, montre à quel point les populations sont en plein désarroi et à quel point il n'y a pas de communication véritablement et de prise en charge de ce désarroi par les autorités fédérales ici aux États-Unis, qui sont les autorités nationales, et également par les autorités locales qui ont du mal à communiquer avec l'administration Obama elle-même.
Patrick Lagadec, donc je le disais, le directeur général de BP, Tony Hayward, annonce quasiment son départ, un départ qui pourrait coïncider avec l'annonce, dit-on, d'une nouvelle stratégie baptisée Future BP, visant, je cite toujours, à restaurer la réputation du groupe et à le préserver, cela dit, d'une OPA, d'une offre publique d'achat hostile d'un rival. C'est ce qui révèle la presse ces jours-ci. Dans le même temps, on se souvient que début juin, dans une interview donnée sur CNN à Larry King, M. Obama avait reproché à BP de ne pas avoir réagi assez vite. Encore une fois, on se demande qui dans le système avait l'obligation de réagir.
Certes, mais quand on entend les multiples déclarations du directeur général, j'ai envie de sortir de la personne. Si on est directeur général d'une grande entreprise à ce niveau-là, exprimer les choses de cette manière montre bien, non pas qu'il y a une erreur de communication, mais qu'il y a une faille gigantesque entre ce qu'on devrait être capable de faire aujourd'hui et les questions sur lesquelles il faudrait s'entraîner et réfléchir, et les réalités. C'est vraiment des questions de posture stratégique qui en disent long sur l'impréparation, la non-prise en compte de ce genre de scénarios qui sont des scénarios du 21e siècle. Il ne s'agit pas d'un bateau qui a perdu un peu de son chargement dans un port. On est sur des choses qui n'ont pas été étudiées, sur lesquelles on n'a pas la moindre idée de comment on va s'y prendre et sur lesquelles on invente tous les jours en essayant de prendre le moins de problèmes possibles sur les épaules. Enfin, c'est complètement à côté d'une véritable stratégie de prise en charge en responsabilité citoyenne et sociale au niveau mondial des enjeux sur lesquels on joue. Enfin, on est complètement disqualifié. Donc certes, M. Hayward a sans doute, comme vous le dites, quitté, mais j'avais été invité par une grande entreprise de cette manière, de ce niveau, à Los Angeles en 2004 pour aller travailler sur les grandes dislocations sur lesquelles il fallait réfléchir. On me disait, oui, mais comme je ne peux pas faire valoir que ce thème est important au niveau interne, bah, je ne peux pas payer un billet d'avion autre qu'aux États-Unis. Enfin, on voit vraiment le niveau vraiment très limité de nos réflexions là-dessus aujourd'hui. Il faut vraiment changer d'air, quoi. Les risques et les crises aujourd'hui sont à toute autre échelle. Il faut être capable de faire face, ou autrement, nous allons les avoir exactement les unes après les autres et aller de fiasco en fiasco, avec exactement ce terme que vous avez prononcé de désarroi. Que des gens dans le milieu écologiste, on arrive à demander à l'armée américaine, dont on peut se demander vraiment ce qu'elle peut apporter dans l'affaire, de prendre les choses en main, c'est vraiment qu'on n'a plus aucune idée. Donc là, il y a vraiment le tocsin à sonner sur nos capacités d'anticipation et de prise en charge des risques qui sont les nôtres et sur lesquels ça tombe pas du ciel.
Alors, sur la réalité également sur le terrain, il nous faut parler encore, bien sûr, de l'impact écologique à l'heure où cette super écumoire est toujours quasiment testée, solide ou pas solide, et faut-il en inventer une autre. Impact écologique, quelques chiffres, Nicolas Willems?
Ce sont des chiffres qui font véritablement, qui donnent le tournis, on peut déjà dire, estimé à plus de 1000 km de côte américaine touchée par le pétrole. On parle également de 200 km² des eaux territoriales américaines du golfe du Mexique, donc c'est le tiers qui ont été interdites à la pêche. Et la marée noire a déjà coûté au groupe pétrolier BP près de 4 milliards de dollars. Certaines estimations de la presse américaine parlent de 10 à 100 milliards de dollars, tout dépend naturellement des méthodes de calcul. Donc on se rend compte vraiment d'un impact écologique. Et surtout aussi, il faut le souligner, un écosystème qui va mettre des décennies à se remettre en place, si pas plus.
Oui, c'est le thème de l'interview que vous avez recueilli de Rick Steiner, professeur à l'Université d'Alaska et spécialiste des marées noires.
C'est certainement un désastre. Il y a énormément de pétrole qui s'introduit dans l'écosystème. À cause de la légèreté de ce pétrole, le phénomène de dispersion s'amplifie. Le pétrole se disperse de la surface de l'eau vers les fonds marins, ce qui est une bonne chose pour les oiseaux et pour les mammifères marins qui vivent à la surface de l'eau. Mais ce n'est pas une bonne chose pour le thon de l'Atlantique et pour tous les poissons qui pondent dans les eaux de la mer. Ce n'est pas parce que l'on ne voit pas les conséquences qu'elles n'existent pas. Il y a de nombreuses blessures à cause de cette marée noire. Dès que le pétrole est dans l'eau, le combat est perdu. Souvent, il n'y a pas plus de 10% de la pollution qui est nettoyée. L'Exxon Valdez est un excellent exemple. Malgré tout le dispositif déployé, il n'y a pas plus de 5 à 7% de pétrole récupéré. Mais les efforts pour éradiquer les marées noires sont très souvent des échecs. C'est souvent organisé pour faire plaisir aux médias.
La question de combien de temps pour récupérer.
La question de savoir combien de temps un écosystème met pour se rétablir est très difficile. Chaque marée noire est différente, en fait. Dans le cas de l'Exxon Valdez, en Alaska, la nature reste toujours affectée 21 ans après la catastrophe. Ici, en Louisiane, nous n'avons aucune idée. Ça dépend du temps, de la consistance du pétrole et surtout où ce pétrole va. Selon une idée répandue, dans les environnements plus chauds, le pétrole se dégrade plus rapidement. Contrairement aux environnements de type arctique. Cependant, ce n'est pas parce que les eaux sont plus chaudes qu'il n'y aura pas des effets à long terme ici.
Rick Steiner, donc professeur à l'Université d'Alaska, spécialiste des marées noires, descendu vers la Louisiane et que vous aviez rencontré sur place. Cet impact écologique, ce désastre écologique est commenté d'abondance quand même.
Voilà, parce que la presse américaine a naturellement beaucoup parlé donc du rôle des autorités américaines, du rôle de BP, des impacts économiques, des impacts sociaux, également des tensions diplomatiques entre britanniques et américains. Mais de plus en plus, on se rend compte aussi de ces conséquences écologiques et environnementales qui sont véritablement désastreuses et qu'on ne peut pas estimer parce qu'on est vraiment face à une marée noire qui ne s'est jamais produite dans l'histoire des États-Unis et on se rend compte que ça peut durer peut-être des décennies jusqu'à 50 ans. Donc voilà, on est parti dans quelque chose de très inquiétant.
Oui, et le mot de la fin, on le laissera peut-être aussi à Philippe Cousteau Junior, hein, ce franco-américain petit-fils du capitaine Jean-Yves Cousteau qui disait, finalement, on ne connaît tellement peu l'impact que cela aura, que l'on connaît sans doute aujourd'hui mieux la Lune que nos océans pour pouvoir en imaginer les conséquences. Merci à vous Nicolas Willems, merci Patrick Lagadec, merci Marie-Christine Bonzon d'avoir été face à l'info. Demain, on se retrouve pour la semaine de l'info. Nous referons le point politique belge oblige sur nos grands dossiers. D'ici là, excellente soirée.
Retrouvez Face à l'info tous les jours de la semaine de 18h30 à 19h.